Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Ça n'aura pas traîné. Une semaine seulement après la mise en garde de Tim Cook, Apple a augmenté ses prix, et pas qu'un peu. La hausse est sévère pour de nombreux produits, des Mac aux iPad en passant même par les HomePod. Certains appareils échappent à cette flambée, mais pour combien de temps? On va faire le point avec Christophe. Dans cette émission, on va également parler de l'alternative à Apple Pay lancée par le Crédit Agricole, de la Steam Machine dont on connaît enfin le prix, et du destin des Mac Intel. Nous sommes le samedi 27 juin, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Le cycle des bêtas poursuit son cours, la deuxième bêta développeur d'iOS 27 et des autres systèmes est sortie en début de semaine, sans grosse nouveauté. Salut Christophe, ça va ?
Salut Stéphane. Ah écoute, ça n'a quand même pas été la semaine la plus sympa de l'année là. D'ailleurs, on le voit avec ton menu, on va parler beaucoup de brosouf. Et franchement, je l'avais d'ailleurs écrit, je crois que la prochaine fois que l'Apple Store va fermer ses portes, c'est pas pour une bonne nouvelle.
Oh bah si, peut-être là, ça sera peut-être pour le back to school là.
Non mais j'avais écrit en début de semaine, avant qu'il ferme, voilà.
D'accord.
Donc voilà. Et toi, ça va ?
Ça va bien. Bon, bah, il fait chaud, mais je me plains pas trop parce qu'au bureau, on a la clim, donc ça va. As-tu installé ces nouvelles bêtas ?
Eh ben, avec tout ce qui s'est passé depuis, c'est presque un non-événement, je veux dire.
Secondaire, ouais.
Je les ai installés. Enfin, il n'y a pas quand même... Il n'y a quand même pas des quantités de choses qui changent.
Non.
Et ça va être assez bizarre quand il y aura la bêta publique. On sera rentré, à mon avis, un peu plus loin dans le cycle. On va se retrouver, alors que c'est une grosse mise à jour en théorie, on va se retrouver comme les mises à jour en point 2, point 3, on va faire la liste de toutes les nouveautés. Et ça ne sera pas très long. Donc voilà, oui, c'est passé, voilà. Mais maintenant, j'en suis à un stade où le truc qui me commence un petit peu à me travailler, ça serait de l'installer sur le Mac.
Ouais.
Mais non, c'est trop tôt, c'est pas sérieux. Donc, je vais attendre.
Je te confirme que j'utilise sur Mac, donc je l'installe sur un Mac secondaire, macOS 27. Et plus j'utilise, plus j'ai envie de l'installer sur un MacBook Air que j'utilise au quotidien. Parce que, en fait, c'est juste les petits trucs d'interface, les barres latérales qui sont enfin lisibles, les choses comme ça. Je trouve ça beaucoup mieux qu'avant. Donc, ça me démange maintenant de l'installer sur mon MacBook Air M1, mais c'est pareil, je pense que je vais attendre au moins la bêta publique. Quoi.
Et est-ce que tu te sens un peu plus rapide? On a écrit un article où on disait qu'il y a vraiment alors, quelques fonctionnalités bien spécifiques qui sont vraiment plus rapides.
Bah, c'est difficile à dire parce que le Mac sur lequel je l'ai installé, c'est un MacBook Pro M5 tout neuf, donc qui est déjà très rapide.
Ouais, elles sont sympas tes machines secondaires. Hein. Ça va.
Donc là, je peux pas te dire, mais une fois que j'aurai installé sur le MacBook Air M1, je ferai des essais. Ouais. Là, c'est là où ça sera intéressant de voir effectivement s'il y a du mieux. Ouais. On va passer à l'actualité chaude de la semaine. C'est bien entendu la hausse de prix sur les produits Apple. Alors, on n'a pas été totalement pris par surprise. Hein. Tim Cook avait prévenu la semaine dernière qu'il y aurait du mouvement en raison de l'explosion du coût de la mémoire. Mais quand même, on ne s'attendait pas forcément à de telles augmentations. Alors, je vais faire un petit résumé. Donc, tous les Mac sont touchés. Le MacBook Neo, par exemple, coûte 100€ de plus, ce qui fait 799€ minimum. Mais il y a pire, comme le Mac Studio qui passe de 2300 à 3000€. Tous les iPads sont aussi concernés. Le modèle d'entrée de gamme passe, par exemple, de 389€ à 509€. Pour l'iPad Air, il faut ajouter 150€ et pour l'iPad Pro, c'est 200 à 340€ de plus selon le stockage. Le Vision Pro, lui, il retourne à 3999€, ça ne va pas aider. Le HomePod Mini prend 20€, et le plus délirant, c'est peut-être l'Apple TV 4K. Elle était vendue jusque-là 189€ en version 128Go. Elle coûte maintenant 299€. Alors, certains produits sont épargnés, notamment les iPhones, mais pour combien de temps, Christophe ?
Bon, je pense que la réponse est assez simple. Mais tout d'abord, effectivement, enfin, je l'ai lu déjà maintes et maintes fois, mais l'Apple TV à 299€.
Ah, c'est de la folie.
Je n'arrive pas à m'en remettre. Je cherche une raison technique pour l'expliquer. Ils ont dû relancer une ligne de production, je ne sais quoi. C'est fou quand même, hein. Alors, tout d'abord, bon, c'est évident, je pense que les iPhones auront le droit à, normalement à une mise à jour tarifaire maintenant à la rentrée. Je pense qu'on entre de toute façon dans une période où on est un petit peu en fin de cycle, en tout cas pour les modèles pro. C'est une période où c'est toujours un peu plus difficile de vendre des iPhones. Donc, si en plus Apple s'était permis de dire, tiens, on va rajouter 100 ou 150 € dessus. C'eût été compliqué, sachant qu'en plus que l'iPhone, malgré tout, bah, enfin, comme je dis souvent, quand l'iPhone va, Apple, tout va chez Apple. Et il y a une vraie dynamique autour des ventes d'iPhone, et je pense que la dernière volonté d'Apple, ce serait d'enrayer cette dynamique. De manière générale, je trouve que Apple a foiré son annonce, de mon point de vue.
Ah bon?
Ouais, je pense que, bah, le truc qui, enfin, en fait, il y a deux choses qui sont assez intéressantes à noter. Alors, peut-être que on a fait beaucoup d'articles là-dessus. Qu'est-ce qui va augmenter? Comment ça va augmenter? Ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on s'est, nous, beaucoup concentrés finalement sur les iPhones et pas sur le reste. Et finalement, c'est sûr que les problèmes de marge, sans doute Apple en a sur son iPhone où il y a de la RAM et du stockage. Mais c'est bien peu de choses par rapport à un Mac Studio où tu as des configurations avec 60 gigas d'espace de RAM et des configs avec 1 ou 2 téra de stockage. C'est pas toujours la norme. Enfin, il y en a des iPhones à 1 ou 2 téra de stockage, pas de souci, mais c'est pas forcément les modèles les plus vendus. Ce que je veux dire, là où je pense que l'annonce de Tim Cook en elle-même, elle était très bien, la façon dont il l'aborder le sujet, il évoquait une sorte de crue centenaire, je trouve ça, j'ai trouvé ça très bien. Mais donc il a dit, attention là, on va pas pouvoir tenir longtemps, et donc on s'attendait à, comment dire, à une hausse des prix qui imminente, quoi. Moi, je pensais que la hausse des prix aurait lieu dans la même semaine. Ils auraient pu le faire en fin de semaine, tranquillement, je sais pas que ça serait passé tranquillement, mais ça serait sans doute mieux passé. Mais je pense que l'un des problèmes, peut-être pour Apple, c'est qu'ils se sont peut-être retrouvés coincés avec les Prime Day d'Amazon. Parce que même quand tu t'appelles Apple, sachant que Amazon est maintenant peut-être le principal revendeur de produits Apple au monde, eh ben, ça fait des volumes importants et peut-être qu'ils ont voulu retarder l'annonce de quelques jours à cause de cet événement. Et voilà. Et ce qui fait qu'on s'était retrouvé, au bout de vendredi, on s'est dit, tiens, ils ont rien fait, ils ont rien annoncé. C'est étrange, ça. Finalement, ils vont annoncer ça, on va dire, à court terme, c'est-à-dire en juin ou début juillet, ou finalement, ah, peut-être que, et c'est ce que Gruber disait, peut-être qu'ils vont attendre finalement la rentrée pour le faire. Donc, c'est vraiment une. Ouais, c'est douloureux, j'ai envie de dire, un peu pour tout le monde. Et puis, bah, ça pose des questions, parce qu'effectivement, il y a quand même des hausses de prix qui sont assez. Qui sont curieuses, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, on a parlé de l'Apple TV 4K. Alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Apple a augmenté les prix, alors, des iPads, des Macs, du Vision Pro, de l'Apple TV et d'autres produits? Est-ce qu'ils ont un peu forcé la hausse, entre guillemets, pour quelque part compenser la baisse de marge qu'Apple doit connaître en ce moment sur les iPhones? C'est un peu ma question. En tout cas, comme je te dis, oui, enfin, l'annonce a été quand même très très mal prise. L'action, jeudi, a perdu 6%. C'est aussi pour ça que je disais que d'un point de vue communication, ce qu'Apple a fait, il y avait peut-être quelque chose de mieux à faire. Et alors là, c'est là où on voit aussi la situation boursière d'Apple. Bah, finalement, la hausse du titre depuis le 1er janvier est maintenant complètement effacée. Donc voilà, on est loin du boom constaté sur certaines actions spécialisées dans le domaine de l'IA. Et d'ailleurs, c'est ça qui est assez fascinant dans cette affaire, c'est de constater à quel point le rapport entre Apple et ses sous-traitants a changé, parce que le même jour, enfin la veille, Micron annonçait ses résultats financiers qui étaient évidemment records, et quand Apple perdait 6% en bourse, bah, l'action de Micron prenait plus de 16%. Et alors, ce qui est encore plus fascinant, et ça relève vraiment, comme je disais, du changement du rapport de force, c'est à quel point Micron a envoyé une pique à Apple, mais vraiment sans se gêner, en disant bah, que Apple récoltait ce qu'elle avait semé pendant des années, c'est-à-dire qu'elle avait mis une pression constante sur les prix pendant des années, et puis en cherchant toujours des contrats de court terme, résultat, les fabricants de mémoire et de stockage n'avaient pas ou peu de marge pour investir, et voilà, on se retrouve dans une situation de sous-capacité auquel Apple maintenant doit payer le prix fort. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. On n'aurait jamais, enfin, il y a 2 ou 3 ans, on n'aurait jamais imaginé une telle situation, quoi. Mmh. Et de se dire que maintenant Apple doit s'écraser en face de Micron, Apple doit s'écraser en face de TSMC et d'autres sociétés de ce même type. Et puis, il y a une dernière chose à dire, je trouve, qui est assez intéressante. C'est, entre guillemets, en économie, on dirait l'effet macro de cette annonce. C'est-à-dire que, pour nous, et pour les auditeurs de ce podcast, c'est pas... Enfin, là où c'est là, mais elle était attendue. Alors après, on peut toujours dire, on s'attendait à plus ou à moins, ça c'est un autre débat. Mais je pense qu'il y a, pour beaucoup de gens du grand public, la hausse des prix suite à l'emballement autour de l'intelligence artificielle, là, je pense qu'ils s'en rendent vraiment compte aujourd'hui.
Ah bah oui, là, c'est sûr. Ouais. Autant l'annonce de Tim Cook n'a pas été forcément reprise dans les médias généralistes, autant là, maintenant, le client qui va acheter... l'iPhone pas encore, mais qui va acheter un Mac en Apple Store va se rendre compte qu'il coûte plus cher qu'avant. Ouais.
Parce que là, il y a des hausses qui sont larvées, mais dont on ne parle pas. Je veux dire, quand tu achètes par exemple un SSD externe, tu ne suis pas le cours du SSD externe semaine par semaine. Et puis on se rend compte là qu'entre un SSD de 1 Tera ou de 2 Tera, je ne sais plus, j'ai plus les prix en tête, mais entre le Black Friday donc, qui était en novembre, et déjà les prix étaient élevés, je me souviens des remarques de Pierre à ce sujet-là, et maintenant pour les Prime Days, il y a quasiment 100 euros de différence.
Ouais, c'est ça, on avait regardé, c'était un SSD externe 2 Tera. Il était donc au mois de novembre pour le Black Friday à 150 ou 160 euros. Et là, maintenant, il est 100 euros plus cher. Ouais. Donc, il ne faut pas avoir besoin de faire des sauvegardes. Voilà.
Un prix promotionnel en plus. Hein, et on peut se dire qu'il sera encore potentiellement plus cher d'ici quelques mois, parce que l'appétit, justement, pour les puces NAND n'est pas prêt de se tarir non plus. Hein. Mmh.
Alors, l'autre actualité qui a fait énormément réagir cette semaine, c'est l'alternative à Apple Pay préparée par le Crédit Agricole. Cette application n'est pas encore officiellement lancée, mais on l'a repérée et on a pu d'ores et déjà l'utiliser. C'est un portefeuille numérique qui permet de stocker sa carte bancaire et de réaliser des paiements sans contact en magasin avec son iPhone. Je m'en suis servi pour payer un resto mercredi et ça a très bien fonctionné. Donc ça peut être aussi rapide qu'Apple Pay puisqu'on peut lier l'application au bouton latéral de l'iPhone. Donc en faisant un double clic, l'app se lance immédiatement et Face ID s'active pour vérifier le visage, donc comme Apple Pay. Alors cette alternative est rendue possible par un accord passé entre Apple et la Commission européenne en 2024. Pour s'éviter une grosse amende pour pratiques anticoncurrentielles, Apple a ouvert l'accès à la puce NFC de l'iPhone aux banques. Alors est-ce le début de la fin d'Apple Pay ?
Alors, j'ai une petite question que je pense que beaucoup d'auditeurs se posent. Donc, maintenant, quand tu fais un double clic sur ton iPhone, tu as ta carte Apple Pay, ta carte du Crédit Agricole qui se met. Voilà.
C'est ça, ouais.
Et donc, c'est comme si tu avais un wallet du Crédit Agricole.
Oui.
Mais c'est un wallet où tu n'as pour le moment que la carte du Crédit Agricole. Est-ce que tu peux mettre d'autres cartes ou pas?
Ah non, c'est réservé aux cartes du Crédit Agricole. Là, j'en ai qu'une, mais si on en a plusieurs, on peut en mettre plusieurs. Mais effectivement, c'est limité au Crédit Agricole, ouais.
Et précisons, pour être complet sur le sujet, que cette possibilité n'existe pour le moment que sur l'iPhone. L'Apple Watch n'est pas du tout concerné pour le moment par ces histoires de pratiques anticoncurrentielles. Donc ça reste... Enfin, c'est pas que c'est limité, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui payent avec leur iPhone. Alors moi, je pense qu'il va y avoir un terrible problème... d'identification pour le grand public. Alors quand je parle d'identification, ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui vont croire qu'ils utilisent Apple Pay et dans les faits, ils utiliseront peut-être une solution concurrente ou l'inverse. C'est-à-dire, tu sais, c'est un peu comme tu entends beaucoup des gens qui te disent qu'ils ont utilisé Google Maps sur leur iPhone pour faire ci ou ça. Mmh. Et puis tu regardes leur iPhone, tu dis, ah mais en fait, tu as utilisé Apple Plan. Je pense que il y aura un sondage à faire auprès du grand public pour savoir quelle est la proportion de gens qui connaissent véritablement, enfin qui sont, qui ont conscience d'Apple Plan. Ce serait intéressant. Pour en revenir à Apple Pay, de toute façon, moi, je suis assez persuadé que le salut d'Apple passera par l'innovation. Il y a plein de choses qu'on peut faire, enfin, qu'on peut faire sur le papier avec Apple Pay, qu'on ne fait pas, qui sont pas exploités ou qui sont partiellement exploités. Par exemple, enfin, je prends un exemple, tu ne peux toujours pas en Europe envoyer de l'argent facilement avec Apple Pay. Je veux dire, tu peux pas prendre un message en disant j'envoie 10 euros à Stéphane, 5 euros à telle personne, ce genre de choses. Ça paraît pourtant évident, quoi.
Et c'est pour ça que Wero est si populaire aussi, l'initiative de plusieurs banques européennes. Là, j'ai l'impression que ça prend pas mal, parce que c'est un moyen d'envoyer l'argent entre particuliers rapidement, ce qu'Apple Pay permet pas. Ouais.
Et pour moi, c'est vraiment là le souci d'Apple, mais je pense qu'elle est aussi un petit peu coincée à la fois par le cadre européen, à la fois par des règlements bancaires qui sont, là, j'ai envie de dire, heureusement, extrêmement rigides. Est-ce qu'elle doit... on a fait des articles avec quelque chose. Est-ce que Apple doit devenir plus ou moins une banque, ou une banque qui ne dit pas son nom? Alors, ça veut dire faire beaucoup de choses d'un point de vue, on va dire, administratif et réglementaire. Apple en a les moyens. Est-ce que ça en vaut le coup? Alors là, je ne suis pas au service financier d'Apple pour le savoir. Et c'est là, et on le voit d'ailleurs aux États-Unis, parce que l'Apple Card, elle aurait pu le faire toute seule en prenant ce chemin-là, mais elle a préféré s'attacher les services d'un partenaire pour la proposer. Et c'est les limites de cette stratégie, c'est-à-dire que ce partenaire, il est très bien implémenté dans quelques pays, mais Apple ne peut pas avoir, entre guillemets, de stratégie globale. Et on le voit quand elle se lance, par exemple, on l'a vu par exemple avec Tap to Pay en Europe, on aurait pu penser qu'elle fasse cavalier seul sur ce sujet-là. Et elle a préféré plutôt passer des accords avec de nombreux partenaires, j'imagine, pour ne pas s'attirer les foudres des régulateurs. Donc on voit qu'Apple est un petit peu coincée. Je ne sais pas si elle a une stratégie même qui est très visible par rapport à ce qu'elle veut faire. J'ai noté quand même un truc, je ne sais pas si tu as remarqué également, je trouve qu'Apple communique de plus en plus autour d'Apple Pay.
Ouais.
On parlait du problème d'identification, je pense qu'il y a quand même une idée de elle veut faire rentrer ça dans les têtes des consommateurs pour payer, la meilleure solution c'est Apple Pay. Elle aura de toute façon sans doute quelques arguments par rapport au Crédit Agricole ou d'autres, se dire regardez avec moi il y aura une sécurité maximum, on vous garantit un maximum de sécurité au niveau des données, ce genre de choses, et de la vie privée, mais est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas. Donc pour finir, de toute façon, comme je dis, le salut c'est l'innovation et il faut que Wallet devienne et reste la meilleure application du marché.
Il faut préciser aussi que le Crédit Agricole nous a indiqué qu'il ne comptait pas abandonner Apple Pay, que son application était en fait une application complémentaire pour donner une alternative aux clients. Alors la banque n'a pas voulu nous en dire encore plus pour le moment, on n'a pas les détails, parce que visiblement le lancement était officiel et prévu pour un peu plus tard. Mais de ce qu'on comprend, ça serait une façon pour la banque de proposer une alternative un peu plus souveraine à ses clients, et aussi pour elle, en fait, une façon d'éviter la commission d'Apple Pay, puisque c'est ça qui énerve les banques depuis le départ, c'est qu'Apple prend une commission sur chaque transaction, et là, en contournant Apple Pay, le Crédit Agricole évite cette fameuse commission qui les gêne.
Oui, mais alors permets-moi de penser que c'est juste transitoire, ils vont peut-être tester leur système et leur architecture, ça ne doit pas poser de problème au Crédit Agricole.
La difficulté, c'est que on en revient en fait à l'accord passé entre Apple et la Commission européenne. L'Apple Watch, par exemple, n'est pas prise en charge. Donc s'ils décident d'abandonner Apple Pay, eh ben, ils abandonnent complètement l'Apple Watch aussi. Et ça, déjà qu'on voit que ça inquiète beaucoup de monde là sur les réseaux sociaux, c'est assez incroyable le nombre de commentaires sur le nombre de gens qui disent alors est-ce qu'ils vont le faire ou pas. Moi, je quitte le Crédit Agricole s'ils abandonnent Apple Pay, mais imagine, ils disent au client bon bah maintenant vous pouvez plus payer avec votre Apple Watch, vous payez seulement avec votre iPhone, ça va pas forcément bien se passer.
Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais tu sais, il y a sans doute, alors ils ont peut-être aussi des accords avec Apple de toute façon qui les oblige à faire certaines choses. Mais après, Il y a aussi des manières assez intelligentes de faire en sorte que dans l'application, tu aies ces deux possibilités-là et que tu mettes beaucoup plus en avant la première que la deuxième et que effectivement, tu continues malgré tout à proposer à Apple Pay discrètement, à la fois pour ceux qui sont vraiment attachés aux wallets d'Apple et qui possèdent une Apple Watch ou un iPad, par exemple, aussi.
Ça sera à voir, ouais. Bon, on va maintenant parler de PC, enfin un PC un peu spécial, puisqu'il s'agit de la Steam Machine. Alors, cet ordinateur est pensé pour être aussi simple à utiliser qu'une console, tout en donnant accès à l'incomparable catalogue de jeux PC. Il est équipé d'un CPU et d'un GPU AMD, de 16 Go de RAM et de 8 Go dédiés pour la vidéo. Cette machine très attendue par les gamers avait été dévoilée en partie l'année dernière, mais Valve n'avait pas encore révélé son prix. Et on le connaît maintenant, c'est 1 039 € avec 512 Go de stockage, ou bien 1 359 avec 2 Tera. Est-ce que la Steam Machine a une chance de réussir à ce prix?
Tu parles PC avec moi, mais est-ce que tu es vraiment sérieux, Stéphane? Est-ce que tu veux que je te parle du PC de mon fils qui est reparti avec 7 ou 8 virus là, qu'il faut que je regarde ce week-end?
Mais je savais que tu avais une expertise dans le sujet, c'est pour ça que je te posais la question.
Les PC gamers. Heureusement que ça ne nous a pas coûté bien cher, cette affaire. Mais non, mais alors, tu sais que je suis sarcastique, mais je me suis intéressé à la Steam Machine et quand ils l'ont annoncé, j'étais potentiellement client. Je trouvais le concept très bien, je vais te dire, pour être honnête. La moralité de l'histoire, je crois que j'ai bien fait d'avoir acheté une PlayStation 5 aux enfants à Noël. Hein. Non, de toute façon, il n'y a pas pire comme timing, je veux dire, pour lancer. Enfin, Nintendo l'a un peu connu avec la Switch 2,
Ça a
mais
l'air encore.
là, c'est la catastrophe parce qu'en plus, Nintendo. Et pas forcément, lorsque Nintendo fait du hardware, ils sont pas dans une course en avant d'un point de vue technologique. Et puis on a vu des comparatifs. Ce qu'ils proposent à ce prix-là, si j'ai bien compris, c'est pas extraordinaire.
Non.
Et je crois que LDLC s'est amusé à dire, ah, nous aussi, on va faire notre machine à nous. Donc voilà. Mais alors, moi, je crois que le problème, c'est que ça s'adresse à une niche, peut-être une trop petite niche. Alors, on peut considérer que malgré tout, c'est une console qui ne dit pas son nom. Enfin, je crois pas qu'il y ait des gens qui vont acheter une Steam Machine pour faire du Word ou de l'Excel dessus, hein.
C'est possible, mais c'est pas l'usage
Ouais.
principal, ouais.
Voilà. Et le problème, c'est que quand on reprend, on va dire, le business model des fabricants de consoles, c'est qu'il faut arriver à. C'est qu'ils vendent souvent. À perte leur console, ou vraiment ils perdent pas d'argent, sauf Nintendo qui est toujours un cas particulier dans cette industrie. Et donc là, Steam n'a pas les reins aussi solides que Sony, Microsoft ou Nintendo. Et ça se voit, mais ceci dit, la situation qu'on vit est, je trouve, très intéressante. Et je me demande comment le marché du jeu vidéo va évoluer et va vivre cette crise tarifaire. Est-ce qu'il va pas finir? Est-ce qu'il va pas? Ça fait un moment qu'on s'attend à ce que ce marché mute un petit peu. Et finalement, ce qu'on a vu avec la nouvelle génération de consoles, c'est que on a assisté finalement à une sorte de statu quo. Alors, ça fait des années qu'on nous dit l'avenir, c'est le cloud pour le jeu vidéo. Pas persuadé que. Voilà. En tout cas, peut-être que ce segment va évoluer d'une manière ou d'une autre, contraint par cette hausse tarifaire. J'attends de voir comment, mais
Oui, parce qu'en
ça
plus,
serait intéressant à suivre.
cette semaine, Microsoft a aussi a annoncé une hausse pour l'Xbox Series S et Series X. C'était des consoles qui se vendaient déjà quasiment pas. Alors là, ça va pas aider à vendre des consoles supplémentaires. Hein.
Et c'est pour ça aussi que je parlais de statu quo, parce que je pensais aussi également à tout ce qui se passe au niveau de la division Xbox, qui sont en pleine réorganisation, ils cherchent véritablement une nouvelle stratégie, ils en ont marre de perdre de l'argent. Le problème de Microsoft, c'est qu'ils ont pas, enfin, ils ont une stratégie, c'est d'être absolument partout, et à force d'être partout, ils sont nulle part. Et voilà, ils savent pas s'il faut privilégier la Xbox ou le PC ou se dire on joue la carte du cloud et voilà. Mais voilà, enfin pour la Steam Machine, pour moi c'est mort, hein, je crois pas un
Mince
instant.
alors. Bon, on va terminer le tour de l'actu en se penchant sur le cas des Mac Intel. Alors macOS 27 apporte des améliorations, comme de meilleures performances sous des barres latérales enfin lisibles, j'en parlais en introduction. Mais le nouveau système retire aussi plusieurs choses, notamment la prise en charge des Mac Intel. Or, vu les nouveaux prix des Mac, on peut avoir envie de faire durer le plus longtemps possible sa machine. Mais que vont devenir les Mac Intel sans nouveau macOS, Christophe ? Est-ce qu'il faut chercher un système alternatif ?
Ah, j'ai toujours un peu de mal avec ce raisonnement, hein, pour être très honnête. Hein. Quand on achète un Mac, on l'achète pour macOS quand même à la base. Hein. C'est pour sa simplicité, tout ça. Et derrière, il faudrait s'amuser à installer un vieux Linux, ou pire, un Windows. Non, mais je veux bien. En plus, c'est vrai que Linux, ça fait quand même d'énormes progrès en termes de simplicité, tout ça. Mais est-ce que c'est bien nécessaire? Pour moi, la seule difficulté pour ces machines-là est de continuer à avoir un navigateur web qui continue à être mis à jour et performant. C'est le seul truc. Je pense qu'il y a toujours.
Ouais, faut pas le demander à Apple alors. Hein.
Non, mais là, il faut se faire dommage. Raison et passer sur Chrome ou Firefox pour ce genre de choses. Mais après, bon. Si j'ai bien compris, Apple a communiqué lors de la WWDC et a assuré que les Mac Intel allaient avoir des patchs de sécurité pendant 3 ans. Donc ils vont être quand même mis à jour jusqu'en, on va dire, 2028, 2029. Donc si on part du principe qu'une personne a acheté un Mac Intel pendant en 2019, elle va avoir quasiment 9-10 ans de prise en charge. À ce moment-là, il est peut-être quand même temps de changer, quand même.
Puis on espère que d'ici là, les prix auront baissé.
Ouais, mais même si tu dis ça, mais ceci dit, je suis bien d'accord avec toi, mais la personne qui a acheté un MacBook Air en 2018-2019, j'ai pas les prix en tête, mais je pense pas qu'il était au-dessous de 1000 euros, ou pas de beaucoup, alors. Et maintenant, enfin, elle achète maintenant aujourd'hui même un Mac Neo un MacBook Neo qui est plus cher. C'est
vrai, ça reste moins cher que le Mac de 2019. Ouais. C'est vrai. Eh bien, merci pour ce retour sur Actu, Christophe, et bon week-end.
Bon week-end à tous.
Bon week-end à tous, et puis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sortie de Veille. Salut à tous.